Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous avons le plaisir de retrouver Louis Albran. Bonjour Louis.
Bonjour, bonjour mes amis.
Alors aujourd'hui, on va parler du patrimoine religieux de Saint-Crépin. Pas mal de choses à dire.
Oui, Saint-Crépin est un village qui a un passé religieux très important et on va essayer d'en expliquer les raisons. C'est déjà par sa situation géographique. Parce que Saint-Crépin, donc, est proche d'Embrun et un des premiers évêchés de France dans l'histoire, puisque le premier évêque d'Embrun, qui s'appelait Saint-Marcellin, est venu déjà au 4e siècle, en 350. C'était un berbère, il est originaire d'Afrique du Nord, il est venu avec Damien, un de ses amis, après avoir prêché en Italie, ils sont passés par le col du Mont-Genèvre, et lui s'est arrêté à Embrun, et son compagnon a poursuivi, il est allé fonder l'évêché de Digne. Alors cet évêché d'Embrun est très important, car c'est un des tout premiers, on l'a dit, au 4e siècle. Et ensuite, à partir de l'an 700 et quelques, les princes, les évêques d'Embrun se sont appelés les princes archevêques d'Embrun, car ils étaient princes du Saint-Empire romain germanique. Donc ils avaient un très grand pouvoir, et ils commandaient, si on peut dire, ils supervisaient les autres évêchés de la région, les évêchés de Digne, de Vence, de Glandève, de Sénès et de Nice. On est quand l'évêque d'Embrun avait pouvoir jusqu'à Nice. Et puis ensuite celui de Grasse, un peu plus tard, en 1244. Donc ce prince archevêque d'Embrun avait un pouvoir religieux, mais aussi un pouvoir temporel, c'est-à-dire il battait sa monnaie, il avait sa justice, il avait son armée, et on verra que ça lui servira beaucoup quand il va faire la chasse, si on peut dire, quand il va pourchasser les pauvres vaudois de la Dormeuse, de la Valouise, etc. Donc Saint-Crépin se trouvait proche d'Embrun, certains princes archevêques d'Embrun avaient d'ailleurs une résidence secondaire, si on peut dire, il venait passer l'été à Saint-Crépin, qui était plus frais. C'est le cas, par exemple, de l'archevêque Gélu, à l'époque de Jeanne d'Arc. Et Gélu a beaucoup défendu Jeanne d'Arc. Il a écrit un livre qui s'appelait « Pour Jeanne », où il écrit au roi et lui dit « Vous avez tort, sire, de ne pas aider cette pauvre bergère qui vous a aidé à reprendre le pouvoir, qui est maintenant prisonnière des Anglais. Payez la rançon et faites en sorte qu'elle soit libérée. » Et l'ingratitude des grands est bien connue, le roi n'a pas bougé. Et Jeanne a fini sur le bûcher. Donc on voit que cette proximité avec Embrun a favorisé l'éclosion religieuse de Saint-Crépin. Déjà en 350 est construite la première église, qu'on appelle aujourd'hui l'église vieille, avec comme paroisse Aiglier, la Roche de Rame, déjà Chancela même, donc très très vieille église. Et ensuite, plus tard en 1450, est construite l'église actuelle, l'église Notre-Dame, qui était une très belle église avec nombreuses fresques de peintres italiens. Et il y aura aussi la visite fréquente des plus grands archevêques d'Embrun, dont Jules II qui deviendra pape, Guérin de Tencin. Alors Guérin de Tencin, c'est un archevêque intéressant parce que son père est un petit colporteur de Seillac qui va vendre pendant la saison d'hiver des différentes choses, notamment à Valence. Et là, il achète une petite terre, la terre de Tencin. Donc la famille ensuite s'appelle Guérin de Tencin et son petit-fils devient prince archevêque d'Embrun. Il voulait même être pape, c'était un homme très intelligent. Il avait une sœur, et sa sœur a été religieuse, puis ensuite elle est sortie du couvent, elle a eu ce qu'on appelait à l'époque un salon important littéraire, et elle a eu un fils naturel qui était le grand D'Alembert, qui est un des auteurs de l'encyclopédie. Donc les princes archevêques d'Embrun ont eu un rôle très important, c'était le troisième évêché de France à l'importance, ils avaient souvent des rôles d'ambassadeurs, des rôles auprès du roi, des rôles de conseil. Donc ils ont tout fait pour aider l'église de Saint-Crépin où il venait, je l'ai dit, se reposer l'été. Voilà une des raisons pour laquelle Saint-Crépin a un patrimoine religieux important. Récemment, j'ai recensé 28 croix. Donc il y avait ce qu'on appelle les croix de mission. C'est pendant le carême notamment, on envoyait des prêtres prêcher. Et chaque prêtre qui venait prêcher à Saint-Crépin plantait une croix. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui autant de croix. Saint-Crépin a été très très tôt christianisé. On dit même que Saint-Paul, après le Christ, Saint-Paul n'a pas connu le Christ, c'est plus tard, se rendait en Espagne et se serait arrêté à Saint-Crépin. Et certains de ses accompagnateurs auraient à l'époque déjà fondé le village de Dormeuse. Donc vous voyez que la Dormeuse a été habitée par ce qu'on appelle des hérétiques bien avant Valdo. Il y a eu là-haut dans ce refuge une tradition de gens qui voulaient instituer un christianisme primitif qui ne respectait pas forcément la hiérarchie et les règles des religions catholiques romaines. Et on verra qu'à partir du XIIe siècle, ils sont rejoints par les Cathares qui ont été pourchassés dans le sud de la France et puis un mouvement de Valdo, Pierre Valdo de Lyon, qui lui aussi vient un temps se réfugier dans le Queyras et dans la Frésinière avant de partir vers l'Est et il ira lui mourir près de Prague. Voilà donc l'histoire donc à Dormiouze, à Frésinière, à Valouise, dans le Queyras, des fameux Vaudois. Il y aura en 1488 un prince archevêque d'Embrun, originaire né à Briançon, qui s'appelle Jean Bayle, qui avec le terrible inquisiteur Cataneo va faire une croisade contre les Vaudois. Et là, il y aura beaucoup de morts, dont 5 de mes ancêtres. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre à ce sujet, qui va être publié bientôt. 3 de mes ancêtres ont été brûlés, donc devant cette église de Saint-Grépin, condamnés à mort pour hérésie. Et 2 autres ont été prisonniers dans la tour brune d'Embrun et ensuite brûlés devant l'église du Réal d'Embrun. Il n'y a que Louis XI, le roi Louis XI, qui a protégé par un temps les Vaudois, car il venait lui-même prier en pèlerinage à l'église du Réal, Notre-Dame du Réal, sur le roc d'Embrun. Il aimait beaucoup Embrun et quand il est mort, il a tendu son bras vers son chapeau parce que sur son chapeau, il avait toujours une médaille de Notre-Dame d'Embrun. Et il aurait dit « Notre-Dame d'Embrun, toi seul peux me sauver ». Mais sitôt Louis XI mort, Charles VIII, son successeur, reprend la croisade anti-vaudois et décime pour toujours les Vaudois de la Valouise et de l'Argentière. Et seuls les Vaudois, très procéduriers, très tenaces, qui étaient capables d'aller jusqu'à Lyon, jusqu'à Paris, pour faire des procès, pour essayer de sauver leur terre, seuls les Vaudois, disais-je, de la Frésinière, vont continuer et ensuite émigreront vers Mérendol, vers le sud, mais là-bas ils seront à nouveau pourchassés par le terrible premier président du Parlement d'Aix-en-Provence, et ensuite ils partiront pour la plupart en Afrique, dans le Maghreb, et ils reviennent ensuite aussi. Donc ce sont un peu comme les Juifs d'éternels pourchassés. D'ailleurs, certains en écrivant La vie des Vaudois ont appelé leur livre L'Israël des Alpes. Voilà encore une raison de plus, cette proximité entre les Vaudois des Hautes-Vallées et Embrun, qui a fait de Saint-Grépin un centre religieux important. Et puis à Saint-Grépin, il y avait aussi une tradition qui sont les pénitents. Alors les pénitents, c'était une espèce de franc-maçonnerie catholique indépendante du curé, qui disait, le curé venait dire les messes dans la chapelle du pénitent. Vous avez vu dans les villages, souvent la chapelle du pénitent est proche de l'église, mais hiérarchiquement, ils ne dépendaient pas de l'église. Ils avaient leur hiérarchie, un recteur, le sous-recteur, qui était le titre purement honorifique, mais qui était un peu le patron de l'association. Il rendait des comptes et par ses confrères, par qui il était élu. Il y avait l'infirmier général, qui n'a rien à voir avec une mission sanitaire, et puis il avait l'œil vigilant de la façon dont étaient observés les statuts. Alors les pénitents enterraient les morts, aidaient les veuves, etc. C'était une espèce de sécurité sociale avant la lettre. Il y avait un secrétaire responsable des biens, de l'entretien des ornements et de la chapelle. Un maître de cérémonie qui organisait et surveillait les offices. Il y avait le portier qui entretient la chapelle et interdit l'accès aux non-pénitents. Donc c'était une association à laquelle il fallait participer et qui avait un grand rôle de soutien et de vie communautaire. Ensuite, il y avait le maître de chœur qui organisait les psaumes, les hymnes qui chantaient. Et mon grand-père, qui est né en 1880, qui est bien connu, était chantre à Saint-Grépin, mais il avait été le dernier chantre chez les pénitents. Voilà, donc je répète, les chapelles indépendantes de l'église, qui sont construites par les pénitents eux-mêmes, dans un style souvent assez austère, et on retrouve encore aujourd'hui des tableaux, etc., des choses qui leur ont appartenu dans les musées. La chapelle, elle avait beaucoup comme thème les commémorations de la Passion, etc. Ils avaient un rôle important dans les grandes fêtes religieuses et une entraide entre les chrétiens du village. Voilà donc encore une caractéristique de Saint-Grépin, les pénitents, mais il y en avait dans beaucoup de villages. Il faut parler de la première chapelle qui a été faite en 350, donc entre Saint-Grépin et la Roche de Rame. J'ai trouvé des documents vers l'an 1000, le frère Bonnardel, le prêtre, était responsable de cette chapelle. Et ensuite, en 1450, dont l'église actuelle, avec le seigneur de Rostin. Et ensuite, on arrive à l'époque des papes en Avignon, au XIVe siècle. Alors là aussi, Saint-Grépin est entre l'Italie et Avignon. Donc les papes qui se rendent à Rome s'arrêtent à Saint-Grépin, où il y a 2 auberges, l'auberge de la Croix-Blanche notamment, qui est très renommée. Ensuite, François Ier installe à la porte de Saint-Grépin des espions, car il veut savoir qui le trahit par rapport à l'Italie, vous savez, quand il fait sa fameuse campagne de Marignan. Ensuite, on arrive plus tard, au XIXe siècle, et là, il y a dans ce village un grand mouvement missionnaire. Il y a un curé exceptionnel qui forme bien les jeunes, qui leur donne envie. On est après la Révolution, sous Napoléon, qui leur donne envie, au début du XIXe, vers 1820, 1830, de partir. Et moi, j'ai deux de mes ancêtres qui partent missionnaires en Chine, de Mgr Albrand, qui écrira le premier dictionnaire français-chinois. Ce sont des gens qui parlent beaucoup les langues. Ils ont été formés chez les jésuites à Embrun, un très très bon collège. Il y a 4 ou 5 jeunes qui deviennent des grands missionnaires de Saint-Grépin, et surtout en Asie. Ensuite, on arrive au 20e, il y a toujours cette tradition à Saint-Grépin de chantre. Je vous ai parlé de mon grand-père, qui était le dernier chantre. Il y a le curé Blanc, le curé Sylvestre, qui écrira un livre qui est très connu à Briançon, qui s'appelle « Les glanes briançonnaises », sur les personnalités les plus importantes de Briançonnais. Donc Saint-Grépin est aujourd'hui un village en déclin, qui est un village pratiquement dortoir, puisqu'il n'y a pratiquement plus de paysans, il n'y a plus que 2 paysans. Et les gens travaillent aux alentours dans les stations, ils viennent dormir à Saint-Grépin. Et on oublie que ça a été un village avec une vie religieuse et, on peut dire, politique très importante. Et maintenant, il faut conserver le patrimoine, les croix, les églises, les chapelles, etc. Et cette modeste émission que je fais aujourd'hui avec vous tend à y contribuer.
Merci beaucoup, Louis.